Merci d'être à l'écoute. Tout de suite, c'est le journal de Benoît Bouscarel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. L'opposition des députés wallons au CETA, le traité de libre-échange Europe-Canada, n'a peut-être pas un caractère définitif. Ce matin, à Luxembourg, les ministres européens du commerce ont voulu se rassurer sur le sujet et la commissaire européenne au commerce assurait que la semaine prochaine, on pourra signer la déclaration avec le gouvernement canadien. Correspondance de Quentin Dickinson dans ce journal et réaction d'une députée régionale au Parlement wallon.
Également dans votre journal, Benoît Bouscarel, à Mossoul, la progression des forces irakiennes kurde se fait pour l'instant aux abords de la ville. Elle est rapide, notamment dans la plaine de Ninive. Une relative facilité qui ne laisse rien entrevoir de ce qui attend les combattants à l'intérieur de la ville. Explication d'Éric Biegela tout à l'heure.
La grève est reconduite à Itélé. Un deuxième jour d'arrêt de travail voté à une très large majorité ce matin alors que l'équipe de Jean-Marc Morandini prépare, elle, sa deuxième émission. Ce qui évidemment est perçu comme un pied de nez de la direction par les journalistes. Le point sur la crise à Itélé dans ce journal avec Catherine Pétillon. Notre invité aujourd'hui, Alexandre Malafaye, président de Sinopia, think tank engagé dans la vie démocratique et qui hier participait à un colloque pour l'amélioration de l'État en vue de renouer les liens démocratiques. Dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Gesbert.
Notre invité, le mathématicien et philosophe Olivier Rey, qui analyse comment les statistiques ont pris le pouvoir de nos vies dans un essai intitulé « Quand le monde s'est fait nombre » qui vient de paraître chez Stock. Il sera avec nous à partir de 12h55.
Le CETA se fera. L'accord de libre-échange transatlantique verra le jour. Les Belges et notamment les Wallons seront convaincus. Voilà en substance ce qui ressort des échanges à Luxembourg ce matin des ministres européens du commerce dans la perspective de la signature de l'accord entre l'Union européenne et le Canada. Ils tentaient collectivement de se rassurer. Bonjour Quentin Dickinson.
Bonjour Benoît, bonjour à tous.
Correspondant de Radio France à Bruxelles, ce matin le désaccord des députés wallons qui ont opposé, rappelons-le, la semaine dernière leur veto à la ratification du CETA par la Belgique a été minimisé.
Oui, et ce n'est pas encore ici à Luxembourg que l'on saura quel est l'avenir du traité euro-canadien. Les 28 ministres chargés du commerce n'ont pu que constater que les questions avancées par les élus wallons et francophones belges, c'est-à-dire de deux des sept assemblées belges dont l'aval préalable est nécessaire pour la signature de la Belgique, que ces questions n'ont pas encore toutes trouvé de réponse jugée satisfaisante. La concurrence de l'agriculture canadienne, tout comme par exemple aussi des inquiétudes quant au traitement de certaines denrées, restent toujours autant de points d'incompréhension réciproque et de friction à désamorcer. L'espoir du côté de la Commission européenne, des autorités fédérales belges et des ministres réunis ici, c'est que les réticences wallonnes pourront être levées en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne prévu pour jeudi et vendredi de cette semaine à Bruxelles, de façon que la signature officielle puisse tout de même en effet intervenir, vous le disiez, le 27 octobre comme prévu.
Quentin Dickinson, merci à vous. Dans une interview donnée à la presse belge ce matin, le président du Parti socialiste francophone belge et ancien Premier ministre, Elio Di Rupo, a en quelque sorte répondu au ministre du Commerce. La Wallonie, a-t-il dit, a été snobée par la Commission européenne qui n'a jamais daigné lui répondre dans ce dossier. Alors y a-t-il un mépris de la représentation démocratique dans ces négociations? Sophie Delpont a posé la question à Olga Zrilen. Elle est députée régionale au Parlement wallon.
Ah oui, tout à fait. C'est bien un traité qui est négocié depuis 8 ans. Au bout des 8 ans, un texte est déposé en bonne et due forme sur les bancs des différents parlements. Il se fait qu'en Belgique, nous avons 7 parlements et que le Parlement wallon a maintenant pleinement les pleins pouvoirs et l'autorité et la légitimité pour pouvoir affirmer sa position face à des traités internationaux. C'est depuis 1 an que l'on envoie des alertes en disant « nous ne sommes pas d'accord sur le dispositif qui vise à faire en sorte que les litiges ne soient pas réglés d'abord par les tribunaux nationaux, que on donne autorité pleine et entière aux multinationales pour attaquer les États. Si ces États décident de prendre des décisions en faveur de leur économie, en faveur des services publics, en faveur de la protection de leurs citoyens, et si ces multinationales vont considérer que de telles décisions réduisent largement leur champ d'activité commerciale et par conséquent leur marge de profit, dont eux-mêmes pourront déterminer le montant qu'il va leur manquer et eux-mêmes vont pouvoir attaquer directement les États. Donc on met les multinationales au-dessus de la légitimité démocratique des systèmes juridiques des États. Aujourd'hui, nous ne restons en l'état opposés à donner notre délégation de signature à notre État fédéral. Voilà. C'est non.
Olga Azrilienne, députée régionale au Parlement wallon, jointe ce matin par Sophie Delpont. Bonjour Alexandre Malafaï.
Bonjour.
Président du think tank Sinopia, vous êtes l'invité de la partie interview de ce journal. Est-ce que vous voyez venir là dans ce dossier un déni de démocratie ?
Je ne parlerai pas d'un déni de démocratie, je parlerai plutôt d'une erreur de calendrier. Dans le contexte actuel européen, après le Brexit et face à cette espèce de perspective complètement floue de l'Union européenne et de ce qu'elle va devenir, soumettre à la ratification populaire un texte qui a quand même une espèce d'arrière-pensée libérale, forcément ne peut qu'inquiéter les électeurs belges.
Il ne fallait pas demander leur avis, c'est ça ?
Je pense qu'il fallait différer. Je pense que surtout il fallait différer. Je pense qu'en l'état actuel du projet européen, consulter les Européens, quels qu'ils soient, sur des évolutions de cette nature-là, à mon avis, c'est faire prendre un grand risque au projet.
Mais quoi, ouais. Différer pour ne pas avoir à consulter ?
Différer pour peut-être se poser les questions principales sur ce qu'on veut faire de l'Union européenne. Les chefs d'État se sont réunis à deux reprises depuis le Brexit pour essayer de redonner un cap et un sens. Visiblement, ils n'ont pas encore réussi à trouver un cap et un sens. Donc, entre-temps, tout ce qui va être fait va forcément être plutôt rejeté.
Merci Alexandre Malafaï. Vous restez avec nous. On vous retrouve tout à l'heure en compagnie de Sophie Delpont. Avancée relativement facile pour l'instant dans la plaine de Ninive, des troupes irakiennes lancées depuis hier à l'assaut de Mossoul, la capitale autoproclamée de l'organisation État islamique. Elles n'ont pour l'instant eu qu'à libérer des villages plutôt à l'est de leur cible. Venant des rangs de cette armée irakienne, on apprend ce matin qu'elles ont pris le contrôle d'une vingtaine de localités sans avoir eu à essuyer visiblement de grandes résistances. Ça pourrait bien ne pas durer. Bonjour Eric Biegala.
Bonjour Benoît.
La grande inconnue, alors qu'on apprend à l'instant qu'une réunion internationale sur l'avenir de Mossoul aura lieu jeudi à Paris, c'est évidemment le niveau de résistance qui attend les troupes irakiennes et kurdes à l'intérieur de la ville de Mossoul.
Oui, pour le moment, la résistance est de faible intensité, c'est vrai, mais elle n'est pas nulle, loin s'en faut. Les djihadistes ont engagé le combat à l'arme légère et bombardé au mortier les troupes avançant vers Mossoul, notamment les Peshmerga kurdes qui arrivent de l'Est, dès les tentatives de ces derniers de leur reprendre les villages de la plaine de Ninive. Et ces villages n'ont pas vraiment d'importance, ni stratégique, ni politique pour l'État islamique. En majorité chrétien, ils avaient été en très large part vidés de leurs habitants lors de l'offensive djihadiste de l'été 2014. Néanmoins, les combattants djihadistes ont bel et bien engagé le combat, même s'ils sont à l'évidence en position d'infériorité numérique et tactique. Les Irakiens viennent ainsi ce matin d'annoncer la reprise par leurs troupes de la principale agglomération chrétienne de la plaine de Ninive, Bakdida, également appelée par les chrétiens Karakosh, une ville de 50 000 âmes avant-guerre. Sur ce terrain-là, des villes et des villages quasiment vides de population et répartis dans une longue plaine quasi désertique, les opérations irakienne et kurde ne devraient pas trop se compliquer. Les choses sérieuses risquent en effet de commencer dans l'agglomération de Mossoul elle-même. Là, il est beaucoup plus simple de monter une défense efficace et meurtrière, d'autant que les djihadistes pourront, pour ainsi dire, s'abriter derrière une population encore largement présente en ville. Difficile dans ces cas-là de faire appel à l'aviation, aux bombardements aériens, pour par exemple réduire un immeuble où des civils pourraient toujours se trouver. Dans Mossoul même, il y a fort à parier que les combats se dérouleront rue par rue, maison par maison, pratiquement du corps à corps. Cela pourrait durer des semaines, voire des mois, comme on l'a vu à Sirte, en Libye par exemple, où les djihadistes de l'État islamique tiennent toujours un dernier carré en ville, près de 6 mois après le début de l'offensive lancée contre eux.
L'armée irakienne, vous l'avez dit Eric, est soutenue par les Peshmerga qui regardent déjà vers l'avenir, car leur intervention évidemment n'est pas désintéressée. Écoutez Ahmed, un des combattants Peshmerga engagés dans la bataille de Mossoul, rencontré sur le front par notre correspondante sur place, Oriane Verdier.
Je suis heureux de cet accord. Heureux que nous nous battions ensemble, Kurdes et Arabes, pour libérer Mossoul et se débarrasser des terroristes. Nous espérons qu'après cette guerre, les gens n'oublieront pas que nous existons à nouveau. Nous espérons qu'ils n'oublieront pas non plus les efforts que nous avons faits ces dernières années en essayant d'aider les civils irakiens. Mais aussi les militaires irakiens afin de collaborer et de soigner l'Irak.
Des propos recueillis par Oriane Verdier. Alors, une réunion internationale aura lieu jeudi à Paris sur l'avenir de Mossoul. Jean-Marc Ayrault, le ministre français des Affaires étrangères, estime par ailleurs que la coalition anti-État islamique doit préparer son offensive sur Raqqa d'ores et déjà, sans attendre. Ce serait une erreur, a-t-il dit. Eric Biegala, il faut d'ores et déjà, on l'entend, se poser des questions de long terme.
Oui, ce Peshmerga faisait allusion à un accord en bonne et due forme, hein, entre les Kurdes et l'armée irakienne. Et il est clair que l'armée de Bagdad et les Kurdes avancent vers Mossoul de manière parfaitement coordonnée. Reste que ce combat pour les Kurdes n'est pas véritablement primordial. La plaine de Ninive, la ville de Mossoul ne sont pas regardées par eux comme faisant potentiellement partie d'un Kurdistan de plus en plus autonome vis-à-vis de Bagdad. Cet officier Peshmerga suggère qu'il devrait y avoir à terme d'une certaine manière une sorte de rétribution de la force kurde des Peshmerga pour leurs efforts dans la reprise de Mossoul. Quelle pourrait être cette rétribution, c'est encore un peu tôt pour le savoir, mais le fait est que les différentes forces en présence qui se mêlent ou se mêleront de la bataille de Mossoul voudront toutes en tirer rétribution, qu'il s'agisse des Kurdes, des tribus sunnites, des milices chiites, voire de l'armée turque dont un contingent campe au nord de Mossoul et dont le président Erdogan a annoncé qu'il prendrait part à la bataille pour reprendre la ville. Le premier ministre turc vient d'ailleurs tout juste de confirmer que les chasseurs de l'armée de l'air d'Ankara étaient intervenus en appui de l'offensive sur Mossoul ce matin.
Merci beaucoup Eric Biegala. Alors que les conséquences humanitaires de la bataille de Mossoul sont encore imprévisibles, même si elles s'annoncent de grande ampleur, le commissaire européen pour la sécurité a mis en garde ce matin contre une autre conséquence possible pour l'Europe, un afflux de djihadistes du groupe État islamique au moment où Mossoul tombera. Pour Julian King, qui s'exprime dans le quotidien allemand Die Welt ce matin, même un petit nombre de djihadistes représente une menace sérieuse à laquelle nous devons nous préparer. Il y a également bien sûr la question des réfugiés, elle se pose en France comme ailleurs, et 7 mois après l'application de l'accord Union européenne-Turquie, c'était en mars dernier, une commission d'information sénatoriale rend aujourd'hui un rapport sur son application. Rapport au ton grave, l'accord y est qualifié de réponse fragile, ambiguë et partielle à la question migratoire. Ce rapport propose de tenir une position plus ferme face à la Turquie. Les explications de Sarah Maquet.
Un accord politique controversé, des objectifs partiellement atteints et des fragilités qui demeurent. Les mots utilisés dans ce rapport de près de 130 pages soulignent les réserves des sénateurs face à l'accord UE-Turquie. Un accord qui prévoyait notamment il y a 7 mois un mécanisme dit du 1 pour 1, c'est-à-dire que pour chaque Syrien arrivé illégalement en Europe après le 20 mars et renvoyé en Turquie, un autre Syrien devait être réinstallé dans l'Union européenne. Au final, selon le rapport, sur les 72 000 réinstallations espérées, seules 1600 sont effectives depuis fin septembre et seuls 633 migrants ont été renvoyés vers la Turquie sur les 20 000 arrivés en Grèce depuis le 20 mars. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Eh bien, l'argent, d'abord. L'Union européenne devait verser à la Turquie 3 milliards d'euros pour améliorer les conditions de vie des 3 millions de réfugiés dans le pays. Pour l'instant, sur ces 3 milliards, seuls 400 millions ont été versés. Enfin, une méfiance persiste envers la Turquie quant aux réelles protections accordées dans le pays aux migrants, notamment depuis le coup d'État manqué du 15 juillet. Le rapport de la commission sénatoriale affiche donc sa fermeté. Il répond aux droits de l'homme quand Ankara menace de rompre l'accord si le dossier d'exemption de visa dans l'espace Schengen pour les Turcs n'avance pas. Un rapport qui demande également à l'Union européenne la mise en place d'une vraie politique migratoire.
Sarah Maquet. En Syrie, un geste de bonne volonté de la part de la Russie pour Alep. On l'attendait désespérément et ce matin, l'arrêt des bombardements russo-syriens sur la ville rebelle a été présenté comme une preuve de cette bonne volonté. En réalité, cet arrêt des bombardements qui font chaque jour des victimes civiles est une façon de préparer la trêve annoncée précédemment pour jeudi. Les explications à Moscou de Marc Crépin.
C'est le ministre le plus proche de Vladimir Poutine, le ministre de la Défense, qui a annoncé l'arrêt des bombardements ce matin, un arrêt inattendu, mais selon Sergueï Choïgou, nécessaire à la préparation de la trêve humanitaire de 8 heures déjà annoncée. Il s'agira de mettre en place des corridors et d'inciter les civils et les rebelles à quitter la ville. 4 passages seront réservés aux civils et 2 aux combattants. Mais le commandement russe craint que ces propositions ne remportent pas beaucoup de succès. C'est pourquoi des discussions sont aussi en cours. L'objectif est d'obtenir que les rebelles modérés se séparent des rebelles proches d'Al-Qaïda. On devine à travers les communiqués que les bombardements reprendront de plus belle et avec force dès la fin de la trêve.
Marc Crépin à Moscou pour France Culture.
Midi 45 sur France Culture, la suite du journal de Benoît Bouscarel. On passe à l'actualité française. La question de la violence sur la voie publique contre les représentants des forces de l'ordre ou encore à l'école envers les enseignants. Ces questions vont probablement revenir en force dans le débat démocratique.
À la faveur, si on peut dire, d'une série d'agressions et de faits divers ces derniers jours. Ce matin, un instituteur a été victime d'une agression à Pontoise. Hier, c'était l'improviseur d'un lycée de Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis, qui était frappé paix à la grille de son établissement et c'est la troisième fois que de telles violences éclatent aux abords de ce lycée. Plusieurs jeunes ont même lancé des cocktails Molotov en s'en prenant aux policiers. Au total, 80 jeunes seraient impliqués dans une dizaine particulièrement virulents. Des agressions inacceptables pour Najat Vallaud-Belkacem. On écoute la ministre de l'Éducation nationale.
Nous incitons nos personnels à déposer plainte et nous les accompagnons pour le faire. Nos rectorats le font parce que je ne veux pas qu'on laisse passer cela. Ensuite, nous faisons en sorte de les accompagner au mieux, c'est-à-dire de leur permettre de se poser, de prendre quelques jours, de ne pas retourner au travail tout de suite en les remplaçant. C'est ce que nous avons fait par exemple notamment à Saint-Denis et c'est ce que nous avons fait à Tremblay et à Argenteuil. Et puis, pour l'établissement scolaire tout entier, qui est toujours traumatisé par de telles affaires, des cellules psychologiques sont déployées systématiquement et des équipes mobiles de sécurité sont aussi là pour rassurer, sécuriser. Mais au-delà de cela, on voit bien qu'il y a une question de sécurisation des abords des établissements et c'est la raison pour laquelle, dans les tout prochains jours, j'ai voulu que se tienne une réunion entre les autorités académiques de la Seine-Saint-Denis et la préfecture pour que nous discutions aussi des sujets d'ordre public.
Votre réaction ce matin, toujours en provenance du gouvernement, celle du chef Manuel Valls. L'État poursuivra sans relâche les auteurs de ces violences, explique ce matin le Premier ministre. Une manifestation inédite cette nuit de policiers à Paris sur les Champs-Élysées. Ils étaient près de 400 au plus fort du rassemblement, organisé sans le soutien des syndicats et sans même leur avis, pour faire entendre l'exaspération des policiers, leur fatigue et leur crainte. C'était le but de cette manifestation. C'est l'agression de 4 de leurs collègues à Viry-Châtillon dans l'Essonne il y a 10 jours qui a agi comme déclencheur. Et en cette mi-journée, le directeur général de la police nationale réagit fermement. Cette manifestation est inacceptable, dit Jean-Marc Falcon, et contraire aux obligations des policiers. Grève reconduite à Itélé ce matin. Les journalistes de la chaîne d'information continue poursuivent leur bras de fer avec leur direction et le groupe Canal+. Après une première journée de grève hier marquée par l'apparition à l'antenne de l'animateur Jean-Marc Morandini. C'est précisément la venue de cet animateur mis en examen pour corruption de mineurs aggravés qui a mis le feu aux poudres. Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour Benoît.
L'émission de Jean-Marc Morandini mise à l'antenne est la preuve de la détermination de la direction dans ce conflit. On comprend déjà que celle des journalistes va être mise à rude épreuve.
Oui, on est tous complètement écœurés, résumé ce matin un journaliste de la rédaction. Ce matin, justement, la grève a été reconduite par 110 voix, 3 contre et 21 abstentions, au terme d'une assemblée générale largement consacrée à la première de l'émission Morandini Live. Hier, à 18h, donc, après une journée de rediffusion, Jean-Marc Morandini est bien apparu à l'antenne, imposé par Vincent Bolloré. La direction a fait appel à des techniciens du groupe Canal+, dépêchés pour remplacer ceux en grève de la chaîne d'info en continu. Alors sur le fond, la rédaction parle de nausées, de consternation, d'humiliation après cette émission ponctuée de fausses informations, ambiguïtés douteuses comme ce sujet présenté comme un duplex avec une spécialiste de la politique américaine à Los Angeles, en réalité une professionnelle des RH en studio à Paris, sans parler de l'évocation des agressions sexuelles présumées de Donald Trump lancées par Jean-Marc Morandini, mise en examen, je vous le rappelle, pour corruption de mineurs aggravée. Aucune pub en revanche, les annonceurs ayant refusé d'être associés à l'émission. Ce matin, Vincent Bolloré a de nouveau exprimé son soutien à Jean-Marc Morandini sur Twitter avec ce message. Première émission très correcte, malgré les conditions difficiles, n'en déplaise aux bien-pensants. La rédaction d'Itélé réclame toujours de connaître le projet éditorial derrière l'arrivée de Jean-Marc Morandini et le changement de nom. Itélé devient CNews la semaine prochaine et la rédaction n'a aucune information sur ce que sera la grille. Pas plus de canaux de discussion sur le terrain du dialogue social. Toujours aucun rendez-vous avec la direction n'a été obtenu.
Merci Catherine Pétillon. L'invité de la séquence interview de ce journal est Alexandre Malafaye, président de Sinopia. Vous organisiez hier un colloque en compagnie de la fabrique Spinoza, un colloque sur les moyens de renouer les liens démocratiques. Une des questions posées était comment améliorer l'efficacité de l'État. Ce sera peut-être la première question que va vous poser Sophie Delpont.
Oui, bonjour Alexandre Malafaye.
Bonjour.
Donc dans ce colloque, vous essayez de trouver des outils démocratiques pour sortir, on va dire, de cette méfiance entre les citoyens et le pouvoir politique. Vous avez dit dans une interview, la France mérite mieux que ce bal des ambitieux à courte vue, ces partis politiques qui divisent et opposent les Français pour mieux régner et conserver le pouvoir. Vous proposez quoi?
Je crois qu'en fait, il faut
refaire la démocratie, ou en tout cas la réinventer. C'est ce qui sort du colloque qu'on a organisé hier. On se rend compte qu'on est arrivé au terme du modèle tout représentatif et qu'on va aller vers quelque chose de différent. Et ce quelque chose de différent est quelque chose d'hybride, en fait. Il va falloir garder une ligne représentative parce qu'on a besoin d'un État régalien pour toute une série de sujets. Il va quand même falloir continuer à piloter le bateau France dans un océan mondial qui est assez turbulent. Et puis sur toute une autre série de sujets, il va falloir trouver des solutions alternatives, des solutions participatives, des solutions qui sont effectivement sous forme de jury citoyen, d'assemblée consultative, de gouvernement par référendum. On plaide beaucoup, on l'a publié d'ailleurs dans un sondage IFOP pour Sinopia, les Français sont tout à fait demandeurs d'être consultés par voie référendaire, notamment dans la phase de prise en charge du président de la République pour quelques grandes idées qui pourraient aller chercher l'adhésion des Français. Voilà. Donc il faut gouverner autrement pour arriver à remettre ce pays dans une phase de lien, de dynamique entre gouvernant et gouverné.
Selon ce sondage, donc 2/3 des Français sont pour une primaire, pour faire émerger un candidat de la société civile. Vous avez vous-même tenté d'organiser la vraie primaire, selon votre expression. Vous avez jeté l'éponge. Pourquoi ?
Oui, on a décidé, en fait, d'abord, on a tenté l'expérience. C'était passionnant d'essayer de dire on va faire émerger, tenter de faire émerger un candidat, tout en ne perdant pas notre charte. C'est-à-dire qu'on avait, nous, avec Sinopia, souhaité qu'il y ait une charte, parce que quelque part, les hommes, c'est bien si on peut les renouveler, mais il faut de nouvelles méthodes de gouvernance. Donc c'était notre projet. Bon, on s'est rendu compte à l'expérience, mais on était quand même assez persuadé avant que la marche était très haute, que ce serait difficile, mais c'était très intéressant de tenter l'expérience. Et la grande leçon qu'on en tire, c'est que ce type d'outil qui consiste à essayer de sélectionner des candidats par le biais des nouvelles technologies va s'imposer dans le paysage, d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être pas pour la marche présidentielle qui est quand même une marche extrêmement haute et il y a quand même un minimum de conditions à remplir pour pouvoir briguer un tel suffrage. Mais en revanche, je pense que pour des élections locales, notamment les mairies, peut-être les législatives en 2022 ou avant s'il se passe des choses, ce sera certainement un outil de sélection citoyen qui sera plébiscité et dans lequel, pour le coup, nous, on espère pouvoir rejouer à nouveau un rôle.
La primaire.org, elle est toujours d'actualité ?
Oui, elle est d'actualité, mais je suis assez sceptique, en fait.
Sur Internet, hein, donc c'est une sélection de candidats à la société civile.
Il y avait 200, plus 800, enfin au total 800 candidats entre ceux qui étaient plébiscités et eux-mêmes candidats. Bon, ils sont arrivés à une sélection. Maintenant, il y a quelques dizaines de milliers de personnes qui suivent ça sur Internet. Le process est intéressant, mais il n'était pas du tout sélectif à l'entrée. Donc en fait, il y a des candidats très divers. Je pense que le résultat aboutira certainement au fait qu'il y aura un candidat, qu'ils vont essayer de pousser jusqu'au bout. Je ne suis pas sûr que ça puisse sérieusement participer à cette dynamique de renouvellement citoyen que nous appelions tous de nos voix. Après, cela dit, c'est une expérience, ils ont tenté la leur, on tente la nôtre. Je crois que tout ce qui vient à un moment donné passer ce message auprès de la classe politique qu'on a besoin de renouvellement et on a besoin d'être entendu, tout ça va dans le bon sens.
Sur la gouvernance, dans un sondage IFOP que vous mentionnez tout à l'heure, 53% des personnes interrogées estiment que la France a trop souvent remis à plus tard les réformes. Il est aujourd'hui absolument nécessaire de les mener très rapidement, même si cela doit provoquer de nombreuses grèves et manifestations et un blocage du pays pendant plusieurs semaines. Ouais. Quand, dans ce même sondage, 73% des personnes estiment que le président de la République qui émergera de cette élection ne pourra pas mettre en place ses promesses.
Oui, c'est le sondage qu'on a commandé à l'IFOP. Alors, les résultats sont très, très paradoxaux, très intéressants, parce que c'est vrai qu'il y a une volonté des Français, visiblement, de dire qu'il faut passer maintenant les réformes économiques, sociales dont on a besoin, qui n'ont pas été menées depuis 20 ans pour de multiples mauvaises raisons. Mais en même temps, c'est vrai que les Français doutent complètement de la capacité du prochain président à mener ces réformes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, et c'est pour ça que la troisième question sur le référendum est très intéressante, ça veut dire qu'en fait, les Français vont élire un président, mais ils vont élire sans lui donner de légitimité. Sa légitimité sera institutionnelle, elle permettra de mettre les militaires en action et les gendarmes au garde-à-vous, mais dérouler le tapis rouge à l'étranger, mais ça n'ira pas plus loin. Donc il faut que le président comprenne que sa légitimité reposera sur du sable. Il doit aller chercher l'adhésion des Français sur des sujets le moins clivants possible, et c'est l'enjeu de la quatrième réponse, où en fait 85%, 84% des Français se disent prêts à soutenir un courant réformateur. Donc ça veut dire qu'il faut trouver un moyen de parler aux Français qui n'est pas clivant, qui n'est pas entre les Gaulois d'un côté et puis certaines propositions de 6e République de l'autre qui sont effectivement forcément clivantes. Il faut trouver des sujets de rassembleurs et celui qui y arrivera sera capable effectivement de recoller le lien démocratique avec les Français et de faire passer les réformes dont on a besoin. Et la voie référendaire dans les 100 jours qui suivent la présidentielle nous paraît être une manière d'aller chercher cet assentiment et cette réadhésion des Français dont on a besoin pour relancer la politique, relancer la machine politique.
Quelles sont les mesures, quelques mesures que vous proposez pour renouveler le gouvernement ? Est-ce qu'il faut une 6e République ? Vous en parliez à l'instant.
Non, il faut garder les institutions en l'état. Ce qu'il faut, c'est par exemple sur la fabrication de la loi, c'est recentrer le Parlement, c'est sans doute avoir moins de députés, par contre leur donner beaucoup mieux les moyens de travailler. Aujourd'hui, ils ont trop peu de collaborateurs, il faut vraiment les staffer, si je puis dire. Il faut sans doute prendre en compte des initiatives telles que le vote blanc. Enfin, donner un vrai pouvoir aux citoyens de pouvoir choisir ses candidats, mais aussi pouvoir les rejeter. Et si personne ne vous plaît, à un moment donné, vous avez ce pouvoir citoyen de dire non.
Merci Alexandre Malafaye, président de Sinopia, avec Sophie Delpont. Du soleil aujourd'hui, notamment sur le Languedoc et en PACA, des nuages porteurs de pluie sur un grand quart nord-est et jusqu'au pays de la Loire. Partout ailleurs, des éclaircies souvent belles. Les températures maximales, 22 degrés. Midi 55, ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue. Merci à lui.